Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe du Planty, le tiers-lieu associatif, collaboratif et gourmand installé à Écuyer, est ravie de vous retrouver pour la cinquième saison des Plantes Vagabondes sur Radio G. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et durant la prochaine demi-heure, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages de la verveine. Une émission dans un nouveau format avec de nouvelles chroniqueuses qui nous ont rejoints avec bonheur et enthousiasme. Mais avant de vous en dire plus, je souhaitais adresser un mot personnel de remerciement à Christelle qui a quitté l'émission pour d'autres aventures, elle qui a été dès le début un pilier de cette émission, à la fois co-autrice, à la console, aux relations extérieures. Bref, une personne aux multiples talents dont la belle voix va nous manquer. Comme je vous l'indiquais en préambule, le format de l'émission évolue donc en laissant la place à plus de chroniques, l'opportunité de donner une vision plus transversale du monde naturel, car là, dans la nature, tout est relié et harmonie. Chacun joue sa partition pour la plus belle des symphonies, celle de la vie. Dans cette première émission de la saison, vous aurez donc le bonheur d'écouter trois nouvelles chroniques parmi les six nouvelles propositions. La chronique paysanne de Laura, herboriste et paysanne de son métier. La chronique de cuisine sauvage de Marie, au doux nom de « Enherbez-vous ». Et la chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière » animée par une autre Marie, hydrobiologiste et spécialiste du cycle de l'eau, pour mieux nous faire comprendre justement et simplement comment ce dernier fonctionne. Des plantes qui font du bien, qui nous ravissent les papilles, et un cycle de l'eau en bonne santé. Un beau programme pour cette émission de rentrée. Pour démarrer la saison, en cette période agitée et cacophonique, nous avons souhaité vous parler d'une plante magique, porteuse de paix, au pouvoir exceptionnel de réconciliation, la verveine, une plante vénérée des dieux depuis l'Antiquité, au moins, et adorée des druides. Pour nous accompagner dans ce voyage sonore, le chant de la fauvette des jardins ravivera nos sens et réjouira nos cœurs. À cette époque de l'année où la nature nous offre ses fruits, la verveine dresse joyeusement ses petites fleurs mauves et lumineuses un peu partout dans le jardin du Planty, sur le parking enherbé, dans la cour et tout autour des bâtiments. Aplatie ou dressée, elle nous chatouille de ses épis bleus, comme pour nous inviter à ralentir le pas. La verveine sauvage, ou verbena officinale, se plaît en effet dans les sols secs et ensoleillés, comme les friches, les pelouses sèches, les abords de construction où elle s'incruste entre les pierres et le long des bordures. Plante pérenne, au feuillage ovale et denté, elle déploie de juin à octobre des tiges carrées et ramifiées de 15 à 40 cm de haut. Ces dernières portent à leur extrémité des épis de fleurs minuscules. Si vous prenez le temps d'observer de plus près le sol autour de vous, vous vous apercevrez de leur présence et serez surpris de leur grand nombre. Très cosmopolite, la verveine pousse spontanément dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et en Asie, où les fleurs peuvent être aussi blanches ou roses. Elle colonise très volontiers les endroits secs du fait de sa grande résistance à la sécheresse. Cette capacité à gérer le manque d'eau est une excellente opportunité de passer la parole à Marie dans sa chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière » pour nous parler des méandres. Laissons-la nous expliquer cela. Vous ne regarderez plus nos rivières comme avant, je vous assure.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside,
C'est quoi un méandre ?
Si en mathématiques, le plus court chemin entre deux points est la ligne droite, la rivière nous rappelle que sa science est bien différente. L'eau aime prendre son temps et ne voyage jamais seule. Près des sources, lorsque la pente du petit cours d'eau est importante, la rivière recrute des compagnons de route. Sa force arrache au sol et aux berges des roches, des blocs, des graviers. C'est l'érosion. Plus tard, lorsque la rivière est moins furieuse, elle dépose sur son passage les matériaux qu'elle transportait jusqu'alors. C'est la sédimentation. Ainsi, au fur et à mesure de son parcours, la rivière érode puis sédimente dans un équilibre proche d'un balancier. As-tu déjà observé une goutte d'eau qui ruisselle sur une vitre ? Elle s'accroche au moindre grain de poussière et sinue sur la paroi. Dans le lit de la rivière, le même phénomène existe. La rivière va chercher d'une berge à l'autre les éléments dont elle a besoin pour poursuivre son chemin. Elle creuse d'un côté, dépose de l'autre. Lorsque son débit gonfle au gré des pluies, elle arrache encore plus de matériaux et lorsqu'elle est plus sage, elle les redépose. On parle alors d'un équilibre dynamique de la rivière qui ajuste continuellement sa largeur, sa pente ou sa sinuosité. En plaine, lorsque la pente est plus faible, la rivière va davantage se déplacer latéralement. Elle va créer de grandes boucles que l'on appelle méandres. La présence même de ces boucles est donc un signe de bonne santé de la rivière. Elles permettent d'obtenir diverses profondeurs, diverses tailles de gravier, des vitesses de courant variables selon la berge, permettant à un grand nombre d'espèces différentes de trouver les conditions qui leur sont idéales. Malheureusement, ce que l'on appelle l'espace de mobilité de la rivière pouvait empêcher l'exploitation des terres de part et d'autre du cours d'eau. Ainsi, dans les années 70 notamment, l'aménagement du territoire a eu pour conséquence de rendre les rivières rectilignes en coupant les méandres pour un très grand nombre de ruisseaux. Les petites rivières ont cessé de sinuer lentement pour faire place à des, entre guillemets, autoroutes de l'eau où la vie se développe moins. Les matériaux qu'elles transportent ne se déposent plus aux endroits propices, les plantes aquatiques ne peuvent plus pousser faute de zones de courant plus longues. Privée de ses méandres, la rivière perd une partie de son grand pouvoir. Elle est moins capable de purifier l'eau et sa qualité se dégrade. C'est la raison pour laquelle actuellement, les acteurs des rivières ont à cœur de restaurer l'équilibre des rivières, soit en permettant au cours d'eau de sinuer de nouveau par lui-même, soit en lui donnant un coup de pouce avec des opérations dites de reméandrage. Un des exemples parlants aux portes d'Angers est la restauration du petit ruisseau de Marsay par le syndicat mixte des basses vallées angevines. Une réussite de renaturation.
Chaque fleur de verveine porte une languette verte de quelques millimètres, faisant office de piste d'atterrissage aux abeilles, car sa forme en corolle regorge d'un délicieux nectar sucré qui les attire. Il faut savoir que chaque fleur porte les deux sexes et a la capacité de s'auto-féconder, même s'il est plus opportun de faire appel aux insectes pollinisateurs, qui restent le meilleur moyen de brasser des populations. Le mélange favorise l'adaptation à l'environnement, du sol au climat, une stratégie payante à long terme à privilégier dans un contexte très changeant. La verveine sauvage européenne fait partie de la famille des verbenacées, qui regroupe d'autres genres originaires d'Amérique du Sud, à l'instar de la verveine de Buenos Aires ou verveine de Patagonie, très utilisée en tant que plante exotique décorative. Ses parties aériennes sont gélives et chaque printemps, la racine abritée dans le sol redonne de nouvelles plantes. Comme sa cousine européenne, elle affectionne les sols secs et ensoleillés. Elle attire de nombreux pollinisateurs comme les papillons et les abeilles. Une alliée précieuse dans les jardins. Enfin, une grande variété de coloris est proposée par les horticulteurs, même si le mauve reste la couleur la prédominante. Une autre cousine sud-américaine, la verveine du Pérou, ou verveine citronnée, est très connue et cultivée maintenant en Europe. Originaire des Andes, cette plante arbustive reste gélive sous nos climats, à moins de la mettre en position abritée. Son parfum citronné, caractéristique et puissant, est très prisé en cuisine et pour les tisanes. Son nom peut prêter à confusion avec d'autres plantes aux effluves puissantes, comme la mélisse, la citronnelle de Java ou encore le thym citronné. Pour cela, bien regardez le nom latin, Aloysia citrodora, pour ne pas vous tromper. La cour du plantier en abrite une, et croyez-moi, une fois utilisée, vous ne pourrez plus vous en passer, car la saveur des feuilles fraîches en tisane est incomparable. Je vous propose maintenant de retrouver Laura et sa chronique paysanne pour nous parler justement de récolte et de secrets de tisane de verveine. Écoutons-la.
Bonjour, bienvenue dans la chronique paysanne. C'est une nouvelle chronique que j'animerai cette année autour des plantes et de leur place dans l'agriculture. Je suis moi-même paysanne et artisane. Je cultive des plantes aromatiques et médicinales que je transforme. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante que j'affectionne particulièrement, la verveine citronnée, aussi appelée verveine odorante, qui est un petit arbuste au feuillage fortement citronné. C'est une plante que je cultive et que j'utilise dans deux de mes tisanes, mais aussi dans un sirop aromatique. Depuis mon enfance, elle m'accompagne dans mon rituel du soir, une infusion de verveine avant d'aller me coucher. De mai à septembre, j'aime la cueillir fraîche le soir dans mon jardin. Et pour l'automne et l'hiver, je la garde séchée. La verveine citronnée est une plante gélive, elle craint le froid. En extérieur, il faut donc la protéger dès la fin octobre, avec un paillage généreux. Foin, paille, laine de mouton ou voile d'hivernage. La dernière récolte se fait en début octobre. Pour la taille, on laisse 5 à 10 cm maximum. On peut aussi cultiver la verveine en pot ou en serre pour mieux la protéger. C'est une plante qui aime la chaleur et le soleil. Idéalement, installez-la le long d'un mur. La pierre emmagasine la chaleur l'été et la protège l'hiver. Elle résiste bien à la sécheresse. Mais pour une belle récolte, mieux vaut arroser régulièrement. À la plantation, privilégiez une terre meuble et aérée, enrichie de compost si nécessaire. Pour la récolte, on peut faire 2 à 3 coupes dans l'année. Personnellement, je préfère 2 tailles, une en juillet à une 20aine de centimètres et une autre fin septembre, début octobre. Le séchage est très simple. Faites de petits bouquets, ficelez-les et suspendez-les la tête en bas dans un endroit sec, chaud, aéré et à l'abri de la lumière. La verveine sèche vite, en 2 à 4 jours. Elle prendra une teinte vert clair et gardera toute sa saveur. Pour la conservation, mettez-la, une fois séchée, dans un sac en papier. Notez la date, vous pourrez ainsi en profiter tout cet automne et cet hiver. Gardez-la un an et recommencez l'année prochaine. Et puis, un petit mot sur la multiplication. La verveine se bouture très facilement, en fin d'été. C'est d'ailleurs la période idéale. Il suffit de prélever une tige, enlever les feuilles le long de la tige et garder la sommité. Plantez-la directement en pot, dans du terreau. En quelques semaines, elle développe des racines. Et vous obtenez de nouveaux plants que vous pourrez rempoter l'année suivante. C'est une manière simple et paysanne de partager la plante. Et puisque c'est la saison, je vous propose de tester la salade de pêche au sirop de verveine, qui est un vrai régal. Coupez les pêches en morceaux, et pour le sirop, faites infuser la verveine dans de l'eau chaude, puis ajoutez une bonne quantité de sucre. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle chronique paysanne.
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM. Et nous partons à la rencontre de la verveine. La verveine sauvage est une plante herbacée que l'on trouve dans les prairies et au bord des chemins. Sa floraison bleue en épis discrets éclaire comme des points violets lumineux en nuages au-dessus des feuilles ovales. Ne vous fiez pas à son apparence inoffensive. Cette plante aux effets puissants, protecteurs et purificateurs alimente l'imaginaire des vieux grimoires depuis fort longtemps. Portée en couronne, elle protège des effets maléfiques lors de cérémonies religieuses. Elle figure aussi dans les rituels de purification énergétique et de protection. Elle éloigne en quelque sorte les ondes négatives. Glissée sous l'oreiller, elle empêche de faire des cauchemars et pour éviter les mauvaises rencontres, il suffit d'en mettre dans ses chaussures. Lorsqu'elle pousse près d'une habitation, les serpents ne s'approchent pas. Un vieil adage dit même que « qui a de la verveine dans son jardin est invulnérable ». Ni plus, ni moins. Vous pouvez la placer en croix au-dessus de la porte d'entrée pour repousser les mauvais esprits, éloigner la foudre ou chasser les voleurs. L'herbe aux sorcières, ainsi qu'on la nomme, s'utilise dans des formules magiques à réciter au cours de rituels précis pour lever la malédiction d'un lieu. Avis aux fans de Harry Potter et de Surnaturel, l'herbe aux enchantements est faite pour vous. Si l'on remonte le temps jusqu'à la mythologie chez les Grecs, la verveine est liée à la fille de Zeus et Déméter, déesse des moissons, la déesse Perséphone. Un médecin grec conseille de tracer un cercle autour de la plante avant de l'accueillir. Chez les Romains, elle est dédiée à Vénus, d'où son nom vraisemblable, herbe de Vénus. C'est sans doute pour cette raison qu'on utilise la verveine sauvage dans les filtres d'amour. Avis aux séducteurs, il est possible de se rendre irrésistible en se frottant la gorge avec des feuilles. Chez les Gaulois, elle est aussi sacrée. Les druides l'utilisent pour jeter des sorts et prédire l'avenir, en confectionnant des infusions divinatrices. Pour agir, il faut la récolter à l'heure de Vénus, avec une lame en or ou en argent, de préférence, pour qu'elle conserve ses pouvoirs d'amour et de réconciliation. Si vous tentez de connaître l'avenir, alors laissez-vous tenter en écrivant sur une feuille fraîche une question simple. Si elle s'envole, la réponse est non. Alors, n'avais-je pas raison ? La verveine est la plante sorcière par excellence. Ces récits mythologiques ont voyagé dans le temps jusqu'au XIXe siècle où Charles-Marie-René Lecomte de Lisle a écrit son recueil de poèmes antiques, dont ce poème intitulé « Néer » qui parle justement du pouvoir d'amour de la verveine. Il faut retourner aux anciennes amours. L'immortel qui naquit de la Vierge Thébaine et les jeunes désirs et leur mère inhumaine me commandent d'aimer toujours. Blanche comme un beau marbre avec ses roses joues, je brûle pour Néer aux yeux pleins de langueur. Vénus se précipite et consume mon cœur. Tu ris, ô Néer, et tu te joues. Pour apaiser les dieux et pour finir mes maux, d'un vin mûri 2 ans, versez vos coupes pleines et sur l'autel rougi du sang pur des agneaux, posez l'encens et les verveines. Je vous propose d'écouter ce poème mis en musique par Reynaldo Hahn et interprété par Véronique Gens et Suzanne Manoff, car évidemment tous les styles de musique s'invitent dans cette émission. Thank you. Aujourd'hui, du fait de son amertume, les propriétés médicinales de la verveine sauvage n'en devinrent pas moins réelles. La tisane d'épifleurie atténue les maux de tête, les rhumatismes, calme la toux et les spasmes. Dans les campagnes, elle est utilisée broyée pour soigner les hématomes. Infusée, elle améliore la digestion et met en appétit. L'eau de verveine s'utilise pour cicatriser la peau aussi. À la fois apéritive et digestive, elle excite l'estomac à sécréter et lutte ainsi contre les vertiges, les migraines, les somnolences provenant d'une mauvaise digestion. Elle est tonique, antispasmodique, utile contre la nervosité, la toux, l'insomnie et même les angoisses. Elle nettoie l'organisme et fait tomber la fièvre, resserre les tissus et prépare la guérison des plaies ou des infections. En d'autres temps, placer des rameaux de verveine dans sa jarretière atténue l'impression de fatigue. Les bergers et vachers ont coutume d'en placer dans leurs chausses pour marcher sans s'épuiser. Avise aux marathoniens de tout poil. Son surnom d'herbe qui guérit tout témoigne de la polyvalence de ses pouvoirs guérisseurs. Dans certaines régions de France, elle fait partie des plantes de la Saint-Jean. Des essais cliniques récents ont confirmé ses propriétés astringentes, cicatrisantes, anti-inflammatoire et fébrifuge, notamment grâce à la découverte d'une molécule, la verbrénaline. Des recherches ont mis en avant ses effets sur les œstrogènes et la progestérone, favorisant les muscles utérins et la montée de lait. La verveine citronnée, quant à elle, aux vertus digestives et antispasmodiques, a donné naissance à la délicieuse liqueur du velay, élaborée avec 30 autres plantes, herbes et épices. Une recette protégée et gardée jalousement qui nécessite macération et distillation avant d'être mise à vieillir en fût. Pour les amateurs de boissons sans alcool, vous pouvez aussi vous préparer de savoureux sirops de verveine. Les feuilles fraîches de verveine s'utilisent dans de nombreuses recettes. Pour en savoir plus, retrouvons Marie dans sa chronique « Enherbez-vous » pour nous parler justement d'un délicieux dessert à la verveine. Mais chut, Je ne vous en dis pas plus.
Bonjour à tous. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui avec notre cueillette de verveine? Un entremets simple, savoureux et bon marché. Et pour commencer notre recette, voici les ingrédients pour une douzaine de crèmes. Vous aurez besoin d'un bouquet de verveine de 5 à 6 brins, 1 litre de lait de vache, 80 g de sucre, un sachet d'agar-agar de 4 g, un citron jaune, 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Et pour une variante végétalienne ou sans lactose, vous pouvez remplacer le lait de vache par du lait végétal, de l'amande ou du riz. Pour ce qui est de l'agar-agar, il s'agit d'une algue marine. Elle se mélange à froid et se gélifie à chaud avec 5 minutes d'ébullition. Alors, c'est parti! Dans un premier temps, vous commencez par verser 4 cuillères à soupe de lait dans un petit bol et vous réservez. Vous mettez le reste du lait dans une grande casserole et vous portez à ébullition. Coupez le feu et jetez le bouquet de verveine. Laissez infuser une heure à couvert. Reprenez la casserole et retirez le bouquet de verveine. Vous incorporez ensuite le sucre et la purée d'amande que vous mélangez au fouet et réchauffez le tout. Pendant ce temps, vous pouvez reprendre le petit bol du début pour y incorporer le sachet d'agar-agar aux 4 cuillères à soupe de lait et mélanger tout de suite au fouet pour éviter les grumeaux. Incorporez ce mélange dans le lait qui est en train de chauffer. Portez à ébullition pendant 5 minutes. Ce temps est important et il permet une meilleure prise de l'entremets. Restez à côté pour éviter les débordements et mélangez régulièrement pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole. Incorporez par la suite quelques zestes de citron jaune. Mélangez le tout et la recette est terminée. Versez la préparation dans les pots en verre ou dans un moule de 12 muffins en silicone rigide, laissez refroidir à température ambiante et placez au frigo pour la nuit. L'avantage du moule en silicone rigide permet de démouler l'entremets. Il pourra être accompagné d'un coulis de fruits rouges ou d'agrumes. Et pour le dressage, ajoutez par-dessus quelques fleurs comestibles du jardin, de calendula ou de menthe. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous donne rendez-vous le 7 novembre pour découvrir une recette avec l'armoise. D'ici là, belle balade dans la nature et bichonnez bien vos jardins.
En guise de conclusion, si une verveine s'installe dans votre jardin, accueillez-la dignement. En ces temps agités où les humains s'entre-déchirent et où parfois les ondes négatives envahissent nos foyers et nos esprits, elle nous invite à écouter notre cœur et à y faire jaillir l'amour. À l'instar des Romains chez qui les ambassadeurs de paix s'appelaient verbenari parce qu'ils se présentaient devant l'adversaire avec une branche de verveine à la main, asseyez-vous près d'elle, effleurez ses épis et écoutez son message. Son pouvoir protecteur éloignera les pensées et les émotions négatives. En offrir un bouquet à ceux que l'on aime, leur feront du bien. Cette émission est terminée. Il faut donc nous quitter. Vous trouverez toutes les informations de l'émission sur notre site www.leplanty.fr. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions et nos podcasts sur le site de Radio G, radio-g.fr, dans l'émission Les Plantes Vagabondes. Bien sûr, partagez avec tous le plaisir d'écouter cette émission. Toute l'équipe de chroniqueurs vous donne rendez-vous en octobre sur 101.5 FM pour découvrir une famille exceptionnelle et indispensable, les graminées ou poacées.
Radio G. Yeah.